Alors tous les ans, le premier week-end d'octobre, se tient à Moissartou le Festival du Livre. On ne présente plus le Festival du Livre puisque c'est la 37e édition. Mais à l'occasion de ce festival qui draine un nombre impressionnant d'auteurs, de débats, de films, même de représentations théâtrales, on fait énormément de rencontres. Et donc je vous propose de partager quelques rencontres, parce que je n'ai pas fait les 300 auteurs, mais je vous propose de partager quelques rencontres pendant le Festival du Livre de Moissartou. À Moissartou, on trouve des éditeurs et on trouve des libraires. Donc j'ai face à moi Laurent, donc je vais te demander de te présenter, et puis présenter ta structure, ta librairie, parce que vous avez quand même une spécialisation. Vous avez, donc ça me paraît intéressant pour les éditeurs d'expliquer effectivement comment c'est organisé, comme votre spécialisation, où vous êtes, tout ça.
Donc je suis Laurent Parez, gérant des librairies Dernier Rempart à Antibes. Donc on est une librairie généraliste suite au rachat de Masséna par le Comic Strips Café, puisque moi à la base j'étais un libraire spécialisé en bande dessinée. Et en 2021, on a racheté la librairie Masséna d'Antibes. Et donc on a créé les librairies Dernier Rempart qui sont maintenant sur Antibes. Et nous, donc, on a à la fois la spécialité du stand BD sur le salon de Moissartou depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, aussi depuis un peu plus longtemps, Masséna a toujours eu un stand libraire à Moissartou. Et donc, on a aussi un stand en littérature.
Alors comment, parce que dans le festival, on croise, il y a des stands avec des éditeurs, et il y a des stands avec des libraires. Comment ça s'organise ça? Parce qu'on attend, vous marchez pas sur les pieds, comment vous organisez?
Alors en fait, le choix des stands d'éditeurs est géré par l'organisation du festival en amont, et les éditeurs qui souhaitent, eux, avoir leur propre stand. Et nous, on intervient parallèlement à ça, c'est-à-dire que s'il y a des auteurs qui ont à la fois, cette année par exemple, il y a Michel Vievorka qui édite aussi...
Ça fait partie de mes interviews.
Voilà, qui édite aussi aux éditions de l'Aube, et les éditions de l'Aube ont un stand. Donc il est convenu que les livres de Michel Vievorka aux éditions de l'Aube, c'est l'éditeur qui les apporte, et nous on apporte tous les autres livres de Michel Vievorka chez les autres éditeurs. Ce qui fait que les participants au salon peuvent trouver quasiment l'ensemble de la biblio de Michel Vievorka sur des stands différents et les faire dédicacer à l'auteur. Donc ça, c'est géré en amont par le festival, et nous on s'intègre là-dedans en discutant aussi avec les éditeurs, qu'on soit bien tous d'accord sur qui amène quoi. En BD c'est un peu différent parce que là il n'y a pas de stand d'éditeurs en BD, enfin à part des tout petits éditeurs, mais dont les auteurs qu'on a ne sont pas
les mêmes,
voilà, ne travaillent pas chez eux, et du coup en BD on gère tous les éditeurs.
Alors ça fait un certain nombre d'années donc, que vous êtes au Festival du Livre de Moissartou. Vous participez à beaucoup d'autres festivals et puis beaucoup d'autres manifestations. Donc dans un premier temps, quelle particularité, pourquoi on revient à Moissartou? Pas simplement parce qu'il y a du monde, je suppose, voilà.
Ben, on revient aussi parce qu'il y a du monde, ça c'est quand même un critère, parce que bon, il y a à peu près 60 000 participants chaque année, c'est ce qui est annoncé. Pour nous, c'est le plus gros festival dans notre programmation annuelle. Donc comme je l'ai dit, ça fait entre 15 et 20 ans qu'on le fait suivant les structures. C'est un rendez-vous important, c'est un rendez-vous qui nécessite aussi beaucoup de préparation de notre part, et la mise en branle d'une équipe. On travaille avec des bénévoles, soit côté littérature avec les bénévoles du salon, soit nous on a nos propres bénévoles qu'on recrute dans la librairie. On revient parce que l'organisation est rodée, je crois que c'est la 37e édition cette année. L'organisation est rodée, il y a rarement de mauvaises surprises, on a toujours des aléas. Tel auteur est malade, ben, on sait qu'on vendra beaucoup moins de ses livres. Et donc c'est des cartons qui vont faire des allers-retours pour rien. Mais l'organisation est rodée, on retrouve les mêmes lecteurs d'une année sur l'autre. Il y a des auteurs qui demandent à venir aussi, à revenir. Voilà, donc nous, on essaye de renouveler aussi les plateaux régulièrement. Mais pour ce qui est de la BD, par exemple, Edmond Baudouin, je pense, prend toujours autant de plaisir à venir. Parce qu'au-delà des simples signatures, la force aussi de Moinsartou, c'est tous les spectacles, les conférences, les concerts dessinés qui sont présentés et qui font plaisir aussi aux auteurs.
Les personnes viennent aussi surtout pour rencontrer les auteurs, pour les dédicaces. C'est ça qui attire beaucoup plus que, parce que sinon on va à la librairie et puis on trouve le même. Mais là, venir là, c'est vraiment pour cette rencontre.
Oui, c'est pour avoir un souvenir personnalisé de la rencontre avec l'auteur, avec une signature dans un roman ou un dessin dans une BD. Nous, on en fait beaucoup tout au long de l'année dans la librairie. On le fait dans d'autres petits festivals qu'on organise ou sur lesquels on est aussi libraire participant. Il y a toujours un engouement d'avoir un dessin original de quelqu'un dont on aime le travail.
Oui, alors, on parle des autres festivals ou manifestations, parce que vous organisez aussi vous-même des, comment on appelle ça, des festivals,
Des petits salons ou festivals. Oui. Au mois d'avril, on fait Polar sur la ville, sur Antibes, où on mixe des romanciers qui font du polar et des auteurs de BD en polar. Et donc ça se passe, quand le temps le permet, Place Nationale, sinon dans la librairie. Au mois de juin, on fait les terrasses BD, donc là où on invite un auteur BD particulier à qui on demande d'inviter ses amis avec qui il a envie de passer le week-end. Donc ça se passe pareil, Place Nationale à Antibes et dans notre autre librairie qui est ouverte depuis un peu plus d'un an maintenant, donc à Cap 3000, dans la librairie du Cap qui est au sein du centre commercial Cap 3000. Et donc là, l'année prochaine, nous, on va fêter les 20 ans de l'ancien Comic Strips Café. En fait, les 20 ans, moi, ça fera 20 ans que je suis libraire l'année prochaine. Ça fera 2 ans qu'on aura ouvert la librairie du Cap. Donc, on va créer un événement qui s'appelle 20+2, v'là les livres. Parce qu'on est très doué sur les jeux de mots foireux. Donc, on en profite beaucoup. Et donc, c'est Zanzim, Fred Zanzim, qui sera notamment l'invité d'honneur des terrasses BD qui auront lieu mi-juin, le week-end de la mi-juin. Et pour ceux qui connaissent un peu la BD, Fred Zanzim, c'est le dessinateur d'une super BD qu'on devrait conseiller à beaucoup, beaucoup d'adolescents qui s'appelle Peau d'homme, l'histoire d'une jeune femme qui, pour se défaire d'un mariage forcé, dans une renaissance un peu fantastique, a l'opportunité de rentrer dans la peau d'un homme pour voir ce que vivent les hommes à son époque.
Alors, la CASA a mis en place un concours de BD, et je sais que vous participez aussi. Ça me paraît quelque chose d'intéressant. Donc,
Alors, on travaille avec la CASA notamment sur le prix BD Police. Qui est le. Alors, je vais tacler un peu la CASA, parce que je pense que le nom n'est pas adéquat, parce que quand on le dit à l'oral,
c'est la police.
Alors que. Non, c'est la cité.
Ah oui, mais c'est anti-police, n'est-ce pas ? Bon, no comment.
Voilà. Donc,
il fallait le placer.
Oui, sauf que avec l'anagramme CASA en BD, les cases de BD, il y avait peut-être un autre jeu de mots à faire. En tout cas, c'est un chouette prix. Parce que c'est des collégiens qui ont participé avec toutes les médiathèques de la CASA à une sélection de BD. Les collégiens doivent lire les 6 BD qui ont été sélectionnés et élire donc la meilleure BD qui gagnera le prix. Le premier lauréat, c'était Riyad Satouf pour le jeune acteur qui était sa nouveauté, mais Riyad Satouf est mondialement connu maintenant pour l'Arabe du futur notamment, ou les Cahiers d'Esther. Le deuxième prix l'année dernière, c'était Théo Grosjean pour Elliot au collège, donc une BD qui parlait des problèmes du collège et du harcèlement et donc une BD qui a eu un gros ressenti auprès des lecteurs. Et donc cette année, il y a 6 albums en lice et le prix sera remis le 6 juin. Et avec la CASA, on travaille aussi mi-novembre sur le prix sur le salon du livre jeunesse où le pareil, comme à Moinsartou, ils ont l'intelligence de traiter la BD comme une vraie littérature pour les jeunes. Et donc, on intervient sur le stand BD et la librairie Jean Jaurès de Nice intervient sur le stand littérature.
Oui, tu m'avais dit, c'est l'année dernière où le livre le plus vendu était justement une BD.
Alors, chaque année où il y a un Astérix qui sort, c'est Astérix qui est le livre le plus vendu. Et en fait, il y a deux ans, le livre qui a été le... Enfin non, il y a un an, le livre qui a été le plus vendu était quand même une BD. C'était le Monde sans fin de Jean Covici, qui n'est pas du tout une BD dans le même style qu'Astérix. Preuve que la BD est une littérature à part entière et intéresse de plus en plus de Français.
Et avec Antea, vous participez à des tables de presse avec Antea ?
Oui, en fait, avec Antea, on a conçu un meuble qui reste à demeure dans les locaux d'Antea, et on ouvre le meuble qui devient une librairie éphémère, où on propose quelques ouvrages de la rentrée littéraire et d'actualité, mais beaucoup, une belle offre sur la scène théâtrale, une offre de livres qui est reliée à la saison en cours, qui est reliée aux comédiens ou aux metteurs en scène ou aux thèmes qui sont abordés. L'année dernière, par exemple, Alain Damasio, qui a fait un spectacle à Antea, a dédicacé du coup ses romans à la suite du spectacle. Ce week-end, il y a Christophe Alévèque
qui est ici aussi,
qui est à Moinsartou, mais qui joue aussi à Antea. Donc du coup, on ouvre le kiosque le soir pour qu'il puisse dédicacer aux gens qui vont le voir en spectacle. Mmh. Et c'est quelque chose qui commence à prendre, et on essaye d'être présent à toutes les premières des principaux spectacles, notamment.
Et alors, pour nos auditeurs, pour les inciter à acheter, bon, l'émission passera après le festival, bien sûr, mais tu conseilles, alors, mettons, deux auteurs en BD, deux auteurs en littérature ?
Alors, en littérature, actuellement, moi, je conseille, dans la rentrée littéraire, il y a un super roman, c'est « Cabane » d'Abel Quentin, qui est sur une problématique qui est un peu liée au rapport Meadows à l'époque, qui était ce rapport qui...
1974.
Voilà, donc c'est... Alors, il ne l'appelle pas le rapport Meadows, il l'appelle le rapport 21, donc il s'éloigne un peu de la réalité, mais on suit en fait les chercheurs qui ont pondu ce rapport, qui annoncent l'effondrement de notre système industriel. Et y a un vrai thriller dans le roman, et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Un deuxième roman que j'ai beaucoup aimé aussi de la rentrée littéraire, c'est La vie meilleure d'Étienne Kern. Et je pense qu'on en a besoin parce que il nous raconte le positivisme de Coué, donc qui était ce pharmacien qui a inventé sa fameuse méthode Coué, où il faut s'auto-suggérer des bonnes choses pour aller mieux. Après, en bande dessinée, actuellement, il y a un petit bijou qu'on vend qui s'appelle L'Orfèvre. Qui est une BD qui a la particularité de pouvoir se lire dans les deux sens. Et on ne vous préconise pas dans quel sens vous devez la lire. Et il y a une boucle scénaristique qui est vraiment très belle. Et ensuite, moi je conseillerais Ulysse et Cyrano, qui est une très bonne BD de d'Horizon au scénario et de Servin au dessin. Qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont le père est un grand industriel au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et lui est programmé pour reprendre la suite de l'affaire du papa, mais lui va se découvrir une passion pour la gastronomie et la cuisine et va aller contre sa prédestination pour faire ce qu'il a vraiment envie. Et ça rejoint un peu la démarche de beaucoup de libraires où on a envie de vendre des livres, on a envie de se rapprocher des auteurs et des écrivains. Et souvent, on va à l'encontre du bon sens, qui serait de peut-être mieux gagner sa vie.
Voilà, alors par contre, on donne quand même rendez-vous, donc, puisque là, c'est le festival. Mais vous êtes, donc, c'est la librairie Dernier Rempart, avenue Robert Solo, Antibes, et les mangas. Alors, moi je disais la BD, maintenant c'est plus spécialisé.
Voilà, avenue du 24 août, l'ancienne librairie bande dessinée est devenue une librairie spécialisée manga et jeux de société. Et donc, avenue Solo, 8-10 avenue Solo, dans les anciens locaux de Masséna, ou de la Sorbonne, ou de Chapitre, pour les plus anciens.
Nous, on dit encore la Sorbonne.
Voilà. On a tout ce qui est littérature, bande dessinée et comics, et papeterie.
Eh bien, merci beaucoup, et puis à très bientôt Antibes. Une autre rencontre, alors que je ne connaissais pas du tout, j'étais hier soir au débat après le film de Vincent Glenn, et du coup j'ai découvert Amélie Poinceau, et je vous propose donc une rencontre avec Amélie Poinceau pour qu'elle nous parle. Alors d'abord je lui ai demandé de se présenter.
Oui, bonjour. Alors, je suis journaliste à Mediapart depuis plus d'une dizaine d'années et je travaille sur les questions agricoles et de manière plus générale sur l'écologie depuis maintenant 5 ans. Et je suis à Montsartou pour la présentation de mon livre « Qui va nous nourrir ?» point d'interrogation. Au cœur de l'urgence écologique, le renouveau paysan, ça c'est le sous-titre. Et ce livre est paru en février aux éditions Actes Sud. Et donc voilà, je suis venue le présenter ici à Montsartou.
C'est la première fois que vous venez à Montsartou ?
Alors c'est la deuxième fois, et d'ailleurs c'est très intéressant que vous me posiez la question, parce que la première fois que je suis venue, c'était juste après le premier confinement, donc en 2020, et j'étais venue en fait pour faire un reportage sur la régie agricole de Montsartou et les cantines municipales, etc. Et donc j'avais fait tout un reportage, parce que c'était une période quand même où on réfléchissait beaucoup, le confinement, le Covid nous avait...
Oui, on croyait que le temps d'après ne serait plus le même, on croyait. Hein.
Exactement, j'avais lancé toute une série d'articles sur le monde d'après, et on espérait beaucoup que ça allait s'améliorer après. Et bref, donc Montsartou était un bel exemple à raconter, et donc je suis vraiment très très heureuse de revenir quelques années après, en ayant entre-temps écrit ce livre où évidemment je parle de l'exemple de Montsartou, mais pas que, enfin on va raconter tout ça, mais je parle de plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui peut se passer au niveau des municipalités, aider les nouveaux agriculteurs, agricultrices à s'installer, c'est effectivement un rôle que peuvent jouer aujourd'hui les collectivités locales, et c'est super intéressant.
Alors c'est intéressant que vous mettiez ça sur le compte des collectivités, parce qu'on parle beaucoup de projets alimentaires, territoriaux, tout ça, mais il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. On est encore au niveau des mots, donc c'est assez intéressant de parler de ça. Alors, quelques mots sur le livre quand même, comment c'est venu cette envie de faire ce livre? Vous dites que vous étiez venu à Montsartou, donc vous êtes sur tout ce qui est agriculture, écologie, tout ça, depuis un certain temps.
Oui, alors moi j'ai eu un déclic personnel à un moment donné, en voyant ce qui se passe au niveau climatique, notamment, et donc après des années de grands reportages à l'étranger, j'ai aussi été correspondante à l'étranger. En fait, j'ai eu tout simplement envie d'arrêter de prendre l'avion, ça a été un premier pas. Et puis ensuite, au niveau de notre journal à Mediapart, il y avait aussi l'idée qu'il fallait qu'on étoffe notre couverture des questions écologiques. Il y avait une opportunité, une possibilité pour moi en fait de changer de poste et de du coup développer et d'enrichir notre couverture des questions écologiques. Et moi, j'ai proposé, c'était aussi dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait aussi le sentiment qu'on était un petit peu déconnecté à Paris de ce qui pouvait se passer dans les territoires ruraux, périurbains, etc. Et qu'on était un petit peu loin de certaines problématiques quand même qui touchent une bonne partie de la population française. Et donc tout ça mis bout à bout, et alors que les questions agricoles étaient totalement absentes des médias nationaux, je parle de il y a 5 ans à peu près,
on en parle quand il y a une grande crise, et on parle que de la FNSEA d'ailleurs, on parle pas de la Confédération Paysanne ou des autres.
Exactement, là depuis le début de l'année, évidemment l'agriculture est arrivée en force dans les médias, mais donc il y a quelques années, on était dans le creux de la vague, on n'en parlait plus, etc., alors que c'est évidemment une question essentielle, c'est ce qu'on mange, a priori 3 fois par jour, et donc voilà, cet ensemble de choses m'a amené à proposer un poste autour de ces questions à Mediapart. Et puis ensuite, en commençant à travailler sur ces questions de manière de plus en plus approfondie, je me sentais un peu à l'étroit dans des articles qui ont une durée de vie éphémère sur Internet, et donc j'ai eu envie d'aller plus loin et de poser un constat en grand à travers un livre. Aussi parce que l'agriculture se traite... C'est difficile de traiter des questions agricoles dans le quotidien, dans le rythme d'un quotidien. Et en fait, on est sur le temps long. Déjà, rien que l'installation d'une personne en agriculture, ça peut prendre de 3 à 5 ans. Et les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes ne pensent pas du jour au lendemain. Ils pensent à horizon un an, en fait, en général. Hein,
une saison.
Voilà, une saison, exactement. Donc, du coup, je trouve que ça se prêtait à une recherche approfondie et à l'écriture d'un livre, même si je continue évidemment en parallèle de travailler comme journaliste à Mediapart.
Alors dans le livre, je dis quand même pour nos auditeurs que j'ai découvert hier soir, donc je suis peut-être un peu déphasée, vous allez me le dire. On a l'impression qu'il y a d'une part le constat, mais il y a surtout des propositions.
Tout à fait, il y a les deux et je voulais surtout pas faire un livre plombant. Moi je suis lucide, je pointe les responsables, je pointe les blocages et ils sont importants et il faut pas se leurrer, il faut pas être naïf. Mais ensuite ce que je voulais aussi surtout c'est effectivement montrer, donner à voir des perspectives, montrer, raconter des gens qui font des trucs mais extraordinaires et aussi peut-être les mettre en réseau, en tout cas faire connaître les pratiques qui se font ici ou là, parce que parfois c'est des gens qui peuvent être un petit peu isolés géographiquement ou dans leurs pratiques, et de faire connaître tout ça à travers un livre, je me disais aussi que ça pouvait certainement inspirer des gens, leur donner du courage aussi, parce qu'il faut du courage pour s'installer en agriculture. C'est beaucoup de travail. Quand on vient pas du milieu, il faut assimiler plein de choses totalement nouvelles, il y avait une envie de montrer tout ça et aussi de montrer les personnes qui ont déjà un petit peu de recul sur ce qu'elles font depuis quelques années sur leur ferme, et bien montrer que ça marche économiquement et qu'on n'est pas obligé d'avoir des très grandes surfaces agricoles et des grosses machines et plein de produits pour faire du rendement et du chiffre. En réalité, ce qui compte aussi et surtout, enfin en tout cas dans les exemples que je raconte, c'est de produire de la valeur ajoutée. Et donc moi j'allais à la rencontre de personnes qui par exemple transforment leurs produits sur leur ferme, se débrouillent pour avoir zéro ou très peu d'intermédiaires et donc maîtriser complètement la commercialisation donc à travers des circuits courts, des paniers à MAP, des magasins de producteurs, etc. Il y a plein de possibilités. Mais effectivement, donner à voir ce qui fonctionne. Parce que c'est souvent l'argument qu'on me rétorque. Non mais l'agroécologie, l'agriculture paysanne, est-ce que ça marche économiquement? Est-ce qu'on peut en vivre? Ben oui, on peut en vivre.
D'ailleurs, dans la crise, on a vu que ce qui faisait du bio s'en sortait mieux que les gros producteurs. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve, et que vous citez d'ailleurs dans votre livre, c'est que le nombre de fermes a diminué. Mais en fait, c'est pas le nombre, c'est les exploitations qui sont regroupées, et qui sont devenues énormes. D'ailleurs, on ne dit plus agriculteurs, c'est des industriels, quoi. Et je crois qu'au niveau du public, alors on essaye de sensibiliser sur ce problème, mais moi je dirais.
Oui, alors je peux donner peut-être quelques chiffres. Les derniers chiffres qu'on a, donc ils datent du recensement agricole de 2020. La taille moyenne des exploitations agricoles en France, elle est de 69 hectares. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce qu'en fait, on a deux types de développement. En fait, d'un côté, on a quand même réussi à préserver des petites fermes, des fermes à taille humaine, et c'est un petit peu le modèle que je mets en avant dans le livre. Mais pas que, parce que encore une fois, il ne faut pas être naïf. Évidemment, la taille des exploitations a augmenté, et donc on a cette taille moyenne, et puis ensuite on a des exploitations qui sont encore bien, bien plus grosses, et cet agrandissement, c'est-à-dire en fait le regroupement, comme vous avez dit, d'exploitations déjà existantes, la concentration, eh bien ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté depuis le début du XXe siècle. Et donc aujourd'hui, on a dans certaines régions, et notamment dans le nord de la France, dans l'Est, dans la Beauce, on a des exploitations qui peuvent avoir plusieurs centaines d'hectares. Et c'est le cas d'ailleurs de M. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui est à la tête d'une exploitation de 700 hectares en Seine-et-Marne. Là, on a un développement qui est vraiment très, très poussé. Et ensuite, bon, évidemment, ça va dépendre aussi des types de culture ou de production. Une grosse exploitation en élevage ou en production intensive de grandes cultures, c'est pas tout à fait la même chose, parce que pour l'élevage extensif, on a besoin de surface malgré tout. Mais bon, bref, en tout cas, la tendance, elle est là. Et selon les derniers chiffres dont on dispose, donc il y a moins de 400 000 fermes en France. Ça représente en fait 500 000 exploitants agricoles, puisque certains travaillent à plusieurs. Donc le statut en tout cas de chef d'exploitation, voilà, c'est à peu près 500 000 personnes. Mais là aussi, ça s'est extrêmement réduit. Pour avoir un ordre de grandeur, donc au début du XXe siècle, on comptait 4 millions de fermes en France.
Alors oui, c'est lié aussi au territoire, parce que nous, dans notre région, bon, c'était essentiellement les fleurs et puis du maraîchage, on était autonome. La plaine du Var alimentait sans, toutes les Alpes-Maritimes sans problème toute l'année. Donc on était autonome. Il y a eu le choix de... Là, c'est l'urbanisation, et ce qui fait que maintenant, pour revenir, c'est excessivement difficile.
Oui, alors c'est difficile. Évidemment, on ne peut pas détruire ce qui a été déjà artificialisé. C'est compliqué. En revanche, on peut éviter de continuer.
Oui, mais alors notre Premier ministre, il a remis, revu la règle sur zéro artificialisation nette.
Oui, bon, là, de toute façon, on ne prend vraiment pas une bonne direction au niveau national. Mais il y a aussi un autre, quelque chose qui n'est pas trop exploité, ou pas du tout même exploité à l'heure actuelle, c'est la réhabilitation des friches. Par exemple, il y a plein de friches industrielles dans plein d'endroits. Et là, en fait, on pourrait... Alors, évidemment, il y a des endroits qu'il faut dépolluer, mais certaines plantes aident à dépolluer, par ailleurs. Et puis après, il y a plein d'espaces, y compris dans les villes, en fait. Hein, il y a du terrain un peu partout. Et il y a du terrain, voilà, qui n'est pas du tout utilisé, qui est abandonné. Il y a du terrain privé aussi. Alors ça, c'est plus compliqué, mais il y a des maires qui ont essayé de faire ça. Mmh. Et je pense notamment à une initiative, je la cite dans mon livre, dans le Finistère, où un maire a réussi à utiliser, en fait, alors je donne toutes les précisions dans mon livre, mais un article de la loi qui permet, en fait, d'installer ou d'aider à l'installation de paysannes, paysans, sur des terres privées, lorsqu'elles n'ont pas été cultivées depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, en fait, la loi peut nous aider aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire.
Alors c'est ça qui est intéressant, mais ça veut dire qu'on se pose cette question-là et qu'on se met à y réfléchir. C'est une volonté politique, effectivement. Alors le livre précédent, c'était sur Orban. Et alors comment on passe de Orban à l'agriculture? Et puis je me suis dit, c'est pas forcément très séparé, parce que en fait sa politique, elle est contraire à tout ça.
Tout à fait. Alors, bah, après, c'est une longue histoire sur mon cheminement personnel, mais comme je le disais, voilà, j'ai eu une prise de conscience personnelle sur les enjeux écologiques aujourd'hui. Et effectivement, c'est pas complètement éloigné dans le sens où Viktor Orban, donc Premier ministre de la Hongrie depuis 2010, hein, c'est le plus ancien dirigeant européen à l'heure actuelle. Et donc, il a une influence et un poids énorme, malgré le fait que la Hongrie reste un petit pays, quand même, à l'échelle des différents, des 27 États membres de l'Union européenne. Mais il a eu un poids énorme, et on l'a bien vu notamment en 2015 lors de la crise de l'accueil des réfugiés. Et en fait, sur les questions climatiques où l'Europe tente timidement, mais quand même, essaye depuis donc 2019 de mettre en place une politique climatique et écologique à la hauteur des défis. Et ça s'appelle le Pacte Vert, Green Deal si on le fait en anglais. Le problème, c'est que ce Pacte Vert, actuellement, il a vraiment du plomb dans l'aile, parce que justement, tous ces dirigeants qu'on a comme Viktor Orban essayent d'en faire le moins possible sur le plan des politiques climatiques. Donc, dans la tête de Viktor Orban, qui était effectivement mon premier livre, j'ai essayé de comprendre comment cet homme en est arrivé à défendre aujourd'hui une politique de droite dure, sur tous les plans. Et après, en travaillant sur les questions agricoles, j'ai aussi fait le lien, évidemment, avec les politiques européennes, puisque la politique agricole, elle est européenne. On a évidemment un gouvernement et des choses qui se votent à l'Assemblée nationale, mais en réalité, pour la politique agricole, depuis le début des années 60, c'est une politique européenne, c'est la PAC, la politique agricole commune. Pour la France, c'est 9 milliards d'euros d'argent public qui nous arrivent chaque année, donc c'est extrêmement important, c'est structurant, et donc ça se joue énormément à Bruxelles, avec les négociations entre les différents États membres et aussi au Parlement européen.
Et vous citiez Rousseau, on dit toujours que le plus gros bénéficiaire, c'est le prince de Monaco, qui a de très grandes exploitations, bosse justement, et ça passe aussi par une refonte complète de la PAC, qui serait plus à l'hectare, mais calculée différemment. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a actuellement un gouvernement qui n'est pas du tout dans cette ligne-là. Donc par rapport au gouvernement actuel, comment on peut faire bouger les choses?
Oui, alors moi, ce qu'il me semble, c'est que Aujourd'hui, effectivement, tout ce qui relève de la politique nationale, là, c'est pas trop à notre portée, parce que nous avons actuellement un gouvernement, de toute façon, qui n'est pas légitime, qui ne reflète pas le résultat des urnes des dernières élections. Donc, à partir de là, voilà, ils sont là pour un certain temps, peut-être assez court. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est dans nos mains? Eh bien, ce que je défends dans mon livre, qui a été écrit bien avant toute cette séquence politique, hein, puisque donc le livre est parti à l'imprimerie déjà à la fin de l'année dernière, hein, fin décembre 2023. Donc à ce moment-là, la crise agricole n'avait pas non plus éclaté. Mais moi, en tout cas, ce que je défends, c'est l'échelon local et régional. C'est-à-dire qu'à la fois les communes et les communautés de communes ont un rôle immense à jouer en mettant en disposition justement le terrain qu'elles ont, le foncier agricole qui existe dans les communes, pas dans toutes, hein, évidemment, les grandes agglomérations c'est plus compliqué, mais il peut y avoir des choses qui se font malgré tout en ville. Et puis il y a l'échelon régional. Et l'échelon régional, il est très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, c'est les régions qui distribuent certaines aides de la PAC, justement, ces aides à l'installation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui aujourd'hui s'installent à la tête d'une ferme, en fait, elles ont droit à de l'argent public, hein, voilà, c'est cette aide à l'installation, la DGA, la dotation jeune agriculteur, elle s'appelle, voilà, elle existe depuis la fin des années 70, et certaines régions sont plus progressistes que d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un tronc commun, il y a un minimum qui est le même pour toutes les régions, et puis ensuite, il y a certaines régions qui modulent et qui vont renforcer certains types d'installations. Exemple, aider davantage les femmes, parce qu'elles ont plus de difficultés à s'installer, elles ont plus de handicap, voilà, c'est plus compliqué pour elles, parce que cette aide, à la base, elle est limitée au moins de 40 ans. Et donc, il y a certaines régions qui ont rajouté de l'argent, en fait, rajouté du budget pour accompagner les gens, y compris lorsqu'ils ont plus de 40 ans, donc pour accompagner davantage les femmes et pour accompagner davantage les projets d'agriculture biologique. Et il y a certaines régions, à l'inverse, qui sont restées à un minimum, le même pour tout le monde, etc. Donc on voit bien que selon les élus qu'on a à la région, eh bien, ça peut être modulé de façon très différente. Donc là aussi, il y a quelque chose d'important. Puis après, il y a évidemment le poids que les mouvements sociaux, les associations, la société peut avoir sur ces questions-là. Et je pense que là, il y a encore des choses à activer.
Eh bien, merci. Alors, on rappelle le livre qui a eu le prix du livre engagé pour la planète, donc en 2024 à Mansartou, qui va nous nourrir, Amélie Poinceau. Et puis, on rappelle Orban aussi, parce que moi, j'aime bien Orban.
oui, bah, il faut bien connaître ses ennemis pour les combattre.
Voilà. Merci beaucoup, Amélie. À très bientôt à Mansartou.
Merci. Merci beaucoup.
La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi, c'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse, c'est le fourreau bleu noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir dans les quartiers prolo, un bouillon de 11 heures et des ongles vernis, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des cellules de Paris, c'est comme une moto chargeant un bal masqué ou comme un torero déguisé en marié, et son voile géant traînant dans l'eau glacée, c'est un prince charmant tout arrêt ou pygmé, un orage de fleurs dans un bain de minuit, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. Terreur dans un quartier pourri, un tremblement de terre au fond de l'océan, un pot-au-feu grand-mère brisé en gants blancs, c'est comme un peu de poudre dans une veine bleue ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux, c'est la nuit des chasseurs, le démon de midi, la folie des grandeurs des filles. l'Idée des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est un oiseau chanteur gardé par des spahis. C'est un tapis de fleurs dans le moine de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est une étoile en pleurs filante en plein midi.
Alors, Monsartou est un festival éco-responsable, on dit. C'est un éco-festival. Donc, c'est pas tellement étonnant, c'est pas du livre, mais c'est pas tellement étonnant d'y trouver un stand de l'ADEME qui propose des mobilités douces. Alors, Gabriel, est-ce que vous pouvez présenter l'ADEME déjà ? Parce que moi, je dis l'ADEME, mais tous nos auditeurs connaissent pas.
Oui, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est donc une agence qui dépend de plusieurs ministères et qui est en charge d'accompagner la transition écologique des entreprises, des collectivités, des citoyens sur tous les sujets, dont le sujet de la mobilité.
Alors vous, votre fonction, vos missions à l'ADEME ?
Alors je travaille au service transport et mobilité dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Extrême Défi. Et puis j'ai une action transversale sur l'innovation au niveau national.
Alors, on parle de mobilité douce. Est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, expliquer quand même ce que c'est que la mobilité douce ? Si vous voulez intervenir, vos auditeurs.
Alors, la mobilité douce, on parle aussi de mobilité active. C'est des mobilités qui font appel principalement au corps, donc la marche, le vélo, les véhicules intermédiaires, quand ils sont actifs avec des systèmes de pédalage. À la différence des mobilités motorisées, donc les voitures... le transport public, etc.
En fait, donc quand on utilise ce type de mobilité, c'est aussi une philosophie, un choix de mode de vie.
Oui, ça va toucher à la fois la façon dont les gens utilisent leur corps pour se déplacer, et donc ça appelle aussi une gestion de l'espace public pour les collectivités, à ce qu'elles font pour que les gens soit à l'aise pour se déplacer dans un espace public, la place allouée aux piétons, la place allouée aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux vélos, pour que les gens aient envie de le faire au quotidien, pour amener les enfants à l'école, faire leurs courses, aller à différents services culturels. Donc c'est aussi de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la planification.
Alors, ce type de mobilité, je crois que c'est vous qui êtes plus sur l'outil, j'allais dire. Vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Olivier Cornet. Je suis constructeur de Véli, un véhicule à quatre roues en mode actif. Donc, il faut pédaler pour avancer. Et ça s'appelle Acticycle.
Alors, vous pouvez un peu mieux décrire les véhicules que vous proposez, là, ici, maintenant, parce qu'il y en a peut-être d'autres aussi.
Alors on est sur un véhicule qui a 4 roues, avec une ergonomie où on peut s'asseoir dedans comme dans une voiture. Donc on n'est pas assis sur une selle, on pédale, mais on est assis comme dans une voiture, à la même hauteur que les voitures. Donc on a le regard qui est à la même hauteur que les automobilistes, et on est équipé d'un volant pour tourner les roues. On ne cherche pas son équilibre comme sur un vélo, on a un véhicule qui est stable. On peut rouler, suivant les versions, entre 25 km/h et 45 km/h. Pour 25 km/h, on est plutôt dans une gamme typée vélo. 45 km/h, on va être plutôt sur de la voiturette.
Oui, alors quand moi je défends la limitation de vitesse à 30 km/h en ville, donc on est tout à fait dans le bon schéma.
Alors oui, pour le 45 km/h, en fait, on s'adresse plutôt au monde rural, où là, il y a des distances à franchir qui sont plus importantes, parfois beaucoup de relief, et donc ce mode de transport est plus adapté pour le monde rural ou le périurbain.
Et en ville ?
Eh bien,
Moi, ce qui m'a gêné quand je les ai vus, c'est que, en fait, la problématique pour moi, c'est d'enlever les voitures de la ville et de limiter, les embouteillages. Or, ça prend autant de place qu'une voiture. Et donc, dans les embouteillages, on est aussi... comment ça se passe ?
Alors, en fait, le véhicule est très étroit. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un transport pour deux personnes, l'une derrière l'autre. Et on en met 4 sur une place de parking conventionnelle. Donc ça prend moins de place quand même qu'une voiture.
Dans le flux de circulation ?
Alors dans le flux de circulation, en fait, soit on va être sur la piste cyclable, dans le cas où on est sur du 25 km/h, on est autorisé sur la piste cyclable. Ou sinon, si on est dans le flux de circulation, on est, dans le flot des voitures.
Donc on peut, parce que les gens qui vont à vélo, ils disent qu'ils gagnent du temps parce qu'on double les voitures, tout ça. Là, non, on n'est pas là-dedans.
En fait, ça va jouer à deux niveaux. C'est que c'est des véhicules, d'abord 10 fois plus légers, donc ils vont endommager 10 fois moins la route que les voitures.
Ça, c'est important, parce que les gens n'ont pas conscience que c'est des fonds publics, le goudron, tout ça. Okay. On défend avec Olivia la gratuité, et on nous dit qu'il faut qu'on paye. Mais quand vous êtes sur une route, c'est bien la collectivité qui paye le goudron, qui paye les travaux. Et ça, personne n'en a conscience.
C'est des millions d'euros tous les ans pour ne serait-ce qu'entretenir les routes en France. Donc c'est un vrai sujet, l'endommagement des routes. Donc des véhicules 10 fois plus légers, ils vont moins endommager les routes. Et puis après, c'est un mécanisme de... il faut que la collectivité donne de la place à ces véhicules. Et donc ça légitime la restriction de l'automobile aussi. Puisque ces alternatives existent, le transport public existe, le vélo existe, alors on peut de plus en plus mettre une pression sur l'automobile... puisqu'il y a des solutions alternatives.
Et donc dans les centres-villes, par exemple, moi, un truc qui me tient à cœur aussi, je radote, je le dis souvent, c'est enlever les camions de livraison, et donc avec les vélos cargo. Et là, est-ce qu'il existe un de vos engins là, que vous présentez qui peut avoir cette fonction-là aussi ?
Quelle fonction,
des livraisons courtes distances.
Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de vélis qui sont dimensionnés pour pouvoir faire de la livraison du dernier kilomètre. Mmh. C'est d'ailleurs le premier marché, je dirais celui qui a pris le plus. Mmh. Aujourd'hui, on voit beaucoup de tricycles ou même de vélos cargo biporteurs qui commencent à arriver en ville. Pour faire de la logistique. Nous, on est plutôt aujourd'hui sur le credo du transport de personnes. Mais l'espace arrière qu'on offre derrière le conducteur, étant donné que les deux personnes sont l'une derrière l'autre, si on enlève la place arrière, on peut tout à fait avoir un chargement logistique.
Oui.
Donc c'est des véhicules capables de transporter plusieurs centaines de kilos, 200, 300 kilos. Pour des véhicules qui ne pèsent eux-mêmes que quelques centaines de kilos, donc c'est beaucoup plus efficace qu'un utilitaire. Et ça permet, oui, de fournir à la fois un premier marché pour ces véhicules et une vraie solution de transport de marchandises en ville.
En ville, pour limiter la pollution, il y a tout ça, surtout. Alors, c'est fabriqué en France, c'est vous qui fabriquez, non, c'est ça ?
Oui, alors, voilà. On fabrique dans la région lyonnaise. On a un partenaire qui s'appelle l'usine à vélo, qui va réaliser tout l'assemblage de nos véhicules et qui va s'occuper également du stock de composants en amont et de l'expédition en aval. Donc en fait, si vous voulez, nous on s'occupe essentiellement de la conception, de regarder l'aspect de commercialisation et l'usine à vélo est vraiment un partenaire pour nous en assemblage. Il faut savoir que de la capacité industrielle disponible, je dirais, un peu partout dans le monde, il y en a énormément. Et on n'a pas besoin de beaucoup de moyens et de gros investissements pour être capable d'assembler ce type de véhicule. Donc quelque part, cette capacité industrielle qui existe, nous on travaille avec une usine qui est en fait une coopérative, qui n'est pas exclusive pour une marque, mais qui travaille pour plusieurs marques de véhicules, qui fabrique déjà 5000 vélos par an à peu près. On peut tout à fait s'adapter et utiliser cette capacité industrielle.
Et donc quand on parle de réindustrialisation de la France, là il y a un bon créneau.
Tout à fait. tout à fait. Cette usine-là, elle a 2 ans d'existence. Elle s'est créée autour de 6 marques différentes. Et aujourd'hui, il y a d'autres marques qui commencent à se greffer sur l'usine pour monter en cadence.
D'accord. Alors, Olivia, tu es à la commission mobilité de la CASA. Donc, et tu prônes, je dirais, ce mode de déplacement. Donc, d'abord, ton avis à toi sur ce que tu as vu ici, que tu avais organisé à Valbonne déjà, hein, une présentation. Mais là, c'est vraiment grand public. Je ne sais pas combien vous avez eu de personnes intéressées. Vous avez suivi, là, non ? Pas tout à fait.
Sur le salon, il y a 50
personnes. Oui, on dit dans le salon.
Plusieurs centaines qui sont venues voir les véhicules. On a une dizaine de véhicules
à disposition,
présents, voilà, présentés, disponibles, à tester. Et puis une exposition qui présente le programme général.
Ouais. D'accord. Donc, effectivement, toi, ton approche à toi. Et puis après, comment, en étant membre de la commission mobilité de la CASA, tu vas promouvoir, je dirais, tout ça auprès du président, du vice-président?
Alors on a deux casquettes en tant qu'élu, et Gabriel parlait de la pédagogie, je pense que c'est très très important. Ma première réaction quand je suis arrivée ce matin, c'était de voir que les enfants sont enthousiastes, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par les vélis, ils ont envie de les essayer. Il y a vraiment une utopie, il y a un rêve qui se crée, et ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'en tant que élu à Châteauneuf, à la commission des écoles, mais aussi à la CASA, on peut vraiment travailler sur ce volet pédagogique. C'est important de montrer aux familles, mais à travers leurs enfants, qu'il y a d'autres façons de se mouvoir.
Alors, ce qui est intéressant par rapport aux enfants, c'est aller de la maison à l'école et y aller en toute sécurité, du coup, parce que c'est des engins où le gamin il peut aller tout seul et en toute sécurité.
Alors voilà, en fait, on a une demande très forte dans notre région pour un véhicule intermédiaire. Alors, sans connaître vraiment le véhicule intermédiaire, nous, on a beaucoup, comme tu sais, promu le vélo, le deux-roues, le cargo. Mais on a une grosse difficulté dans notre région puisqu'on a un relief qui n'est pas tout à fait... qui est assez conséquent. Quand il pleut beaucoup. Donc, souvent, on dit oui, mais les Hollandais, chez eux, il pleut et ils font quand même du vélo. Mais nous, on a quand même quand il pleut... On a envie de se protéger. Donc là, il me semble qu'on a vraiment une solution qui représente exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire à la fois un véhicule plus stable, plus inclusif aussi, puisqu'il a 4 roues, il est plus stable que le 2 roues. Les parents, souvent, qui sont intéressés et qui veulent faire du vélo, ce sont des parents qui emmènent leurs enfants à l'école. Donc, ils prennent la voiture parce qu'ils sont obligés d'aller au travail après. Donc, ils ont besoin d'un véhicule qui puisse porter 2 enfants. Donc là, le Véli, il offre cette solution-là. Mon rôle, ce n'est pas de promouvoir le Véli, mais je trouve que c'est certainement une option pour l'avenir. Et c'est de notre devoir de faire connaître le Véli. Et surtout de le faire connaître dans la commission de la mobilité CASA à Antibes pour pouvoir réfléchir à nos infrastructures et nos façons de relier les aires de vie. Parce que ce sont nos gros problèmes ici dans notre région. On est on a une population qui est en croissance extrême. On a du mal à savoir comment se déplacer. On passe nos vies dans les embouteillages. Et là, cette solution dont tu parlais, Olivier, qui est celle de réduire la place sur la route, peut-être même de décider de voies qui vont être allouées, c'est-à-dire des voies douces et des voies pour les voitures, c'est-à-dire de mieux identifier notre réseau, parce qu'on a un système routier qui est très démodé. Donc il faut repenser tout ça, et ça c'est le rôle du politique, de repenser ça et de se projeter vers une meilleure structuration, un meilleur urbanisme qui inclurait des voies qui seraient dédiées à une façon de se mouvoir qui serait moins polluante.
Et là, si on fait des voies dédiées, il y a besoin de moins de foncier, parce que ce qu'on nous oppose tout le temps, c'est « Ah oui, mais le foncier, on ne peut pas faire des pistes cyclables parce que le foncier est cher. » Là, on a une largeur qui permet de gagner du foncier.
Le véhicule fait moins d'un mètre de large.
Donc, en fait, ah oui, alors...
compatible pour des pistes cyclables en termes d'encombrement. Et comme je le disais, on peut en mettre 4 sur une place de parking.
Je suis là.
Oui, et puis en plus... Donc on a vu qu'il y a des problèmes financiers. Il y a des départements aujourd'hui en France qui n'arrivent plus à entretenir les routes et qui déclassent des routes en voies vertes. Donc des voies qui sont prioritées au mode actif. Et donc créer un réseau de voies vertes pour des questions financières, mais aussi pour développer la mobilité, pour développer l'activité touristique, parce que ça peut créer de l'activité touristique avec ces véhicules. En fait, c'est une voie de développement du territoire qui doit être planifiée, organisée.
Oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment une autre philosophie, parce que nous, on continue à faire des routes. On a la route Golfe-Juan, là. C'est un projet de 30 ans qui n'est plus du tout dans le goût d'aujourd'hui, enfin, de ben, la philosophie qu'il faudrait qu'on ait aujourd'hui.
Mais la demande est là. C'est-à-dire qu'il y a, en 2024, on a vendu plus de vélos que de voitures. Et on sait en tant que politique que nos résidents et nos administrés demandent une solution pour se déplacer. Et puis on a tous en nous un enfant encore. Et quand on est sur un Vélib, je peux vous assurer, c'est comme de faire du kart. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur, on ressent le bonheur qu'on a sur son vélo. On a tous aimé trouver notre indépendance sur le vélo. On a ce sentiment de pouvoir se déplacer de manière saine, qui est très très agréable et qui permettrait à nos centres qui sont engorgés et pollués de se dépolluer. Donc pour tous ce dont on parle, la pollution de l'air, les thématiques qui sont omniprésentes aujourd'hui, le Vélib représente une solution. Ça, c'est...
Voilà.
Je voulais juste proposer peut-être, puisqu'on a cette association magnifique qui s'appelle Choisir le vélo, qui a commandé 2 cargos, pourquoi pas engager ou prendre quelques vélis pour justement tester et faire tester, parce que c'est comme ça que le vélo s'est développé dans la région. On a pu et on a eu ce service absolument génial d'ailleurs, formidable, de pouvoir prendre un vélo 3 semaines gratuitement pour l'essayer. On sait qu'une fois qu'on l'a essayé, on l'achète. Mais pourquoi pas faire ça avec le véli, c'est-à-dire demander à tous ces ingénieurs mettre de côté, commander 3 vélis, les mettre à disposition de ceux qui aimeraient essayer. Je pense qu'une fois qu'on l'essaye, on comprend beaucoup mieux ce que ça représente comme évolution vers une mobilité active.
Alors, c'est ce que tu vas proposer à la prochaine commission, c'est ça ? Et on n'a pas parlé du tout du coût.
Alors aujourd'hui, le prix, en fait, je dirais facial, il est autour des 12 000 euros sur notre véhicule, ce qui représente un coût assez important, c'est vrai. Maintenant, il faut le pondérer par le fait que, à l'usage, ce sont des véhicules qui coûtent 5 à 6 fois moins cher que des voitures. Donc ça, c'est très important. On peut les recharger comme un vélo très facilement sans avoir besoin d'une borne de recharge spécifique. On le branche sur l'électricité de façon classique. On a un prolongateur d'autonomie avec un panneau solaire pour le cas de notre véhicule, par exemple. Et donc, en fait, on est très, très peu dépendant de l'énergie qu'on consomme.
Et il y a des aides d'État pour acheter des véhicules électriques, tout ça. Il n'y a pas encore, c'est pas encore fait.
Alors, sur les aides, on y travaille dans le cadre du programme de l'extrême défi. On travaille à deux niveaux. On travaille sur un score environnemental pour traduire la performance de ces véhicules. Donc le score, il va dépendre de l'efficacité du véhicule et de sa réparabilité. Et pour les véhicules qui ont un score environnemental suffisant, il y aura des aides à l'achat. Et donc on va travailler avec les ministères pour avoir des aides. Donc il y a des aides pour les vélos électriques, 900 euros. Il y a des aides pour les voitures électriques de à peu près 5000 euros. Donc d'avoir une aide entre les deux, voilà, pour des véhicules intermédiaires, ce qui baissera le prix d'achat pour les particuliers.
Mais l'intérêt, c'est de pouvoir le louer aussi, peut-être ?
Le deuxième point qui va baisser le prix, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on parle de véhicules sur lesquels on fait encore très très peu de volume. Dans l'industrie, pour être capable de faire du prix, il faut augmenter les volumes, pardon. Ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on travaille. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder les projections qu'on va avoir à partir du moment où on pourra offrir plus de volume. Comment on va simplifier, comment on va industrialiser mieux, comment on va gagner sur les temps d'assemblage. C'est des techniques classiques qui ont été utilisées dans l'industrie automobile et qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des automobiles, à un prix de revient qui est correct par rapport à l'ensemble de ce qu'on assemble. Par contre, l'automobile reste un produit qui est extrêmement complexe comparativement à un véhicule intermédiaire. Donc il n'y a aucune raison que le prix des véhicules intermédiaires demain ne descende pas à partir du moment où on sera capable de faire plus de volume.
Et bien voilà, donc on attend de tester. Hein. Vous êtes à Montsartou, vous avez des projets d'autres lieux, vous allez les présenter ?
Alors Montsartou fait partie d'une association de festivals qui s'appelle COFIS, qui fédère les festivals en transition. Et donc on va travailler avec cette association pour proposer des véhicules intermédiaires dans d'autres festivals. Pour les raisons, donc les présenter au public, les présenter aux auteurs et fournir au festival une solution de mobilité, de logistique. Et il y a un autre festival en région parisienne, à Courbevoie, Atmosphère, où on va être présent. Et il y aura également un court-métrage ou un long-métrage qui va intégrer des véhicules intermédiaires. Donc, le but, c'est de, aussi que les artistes se saisissent de ces véhicules dans leur travail artistique.
Et bien, merci beaucoup d'avoir accepté, m'avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. Alors j'ai croisé ma guide Chérif, et alors ce qui est génial, c'est que je le croise devant l'affiche qui présente son intervention à Moissartou. Donc c'est pas la première fois que vous venez, vous êtes un habitué, mais donc pour vous Moissartou.
Moissartou, alors c'est vraiment une fierté plus qu'un plaisir, parce qu'on sent qu'on vient retrouver ce village gaulois qui résiste au fascisme rampant de toute la région. Et donc le sentiment d'avoir de donner du sens à nos créations, parce que quand vous avez un festival qui donne un sens politique à son existence, alors là, c'est la fraternité, mais la fraternité c'est politique, puisqu'elle ne tombe pas du ciel. Donc c'est un combat qu'il faut mener. Alors on est content d'être là.
Alors vous êtes venu présenter, alors il y a un film, un spectacle, vous pouvez nous rappeler tout ça ?
Oui, alors le film, donc, c'est une adaptation d'un de mes romans, Ma part de Gaulois, donc réalisé par Malik Chiban. Donc je suis un petit peu spectateur d'un film réalisé par quelqu'un d'autre.
Il est en salle là ?
Oui. Il est en salle ici, le film est en salle à Moissartou. Donc on a présenté le film, on a débattu sur ce que c'est que l'adaptation d'un roman en livre. Et puis je suis venu présenter mon dernier livre, La vie de ma mère. On rencontre des lecteurs. Et c'est le sens de notre vie que de rencontrer des lecteurs.
Oui, et c'est vrai qu'on a l'impression, par rapport à d'autres festivals auxquels vous participez, il y a eu un bouillonnement différent sur Moissartou.
Oui, il y a un bouillonnement différent parce que justement, c'est un salon du livre de combat. Et des gens comme moi qui sont des auteurs engagés, on a besoin de ces rendez-vous pour porter cette parole, rejoindre les troupes de la résistance fraternelle, de ceux qui sont pour une société féministe, antiraciste, qui combat contre tous les racismes, tous les antisémitismes, et on n'est pas assez nombreux. Et alors quand vous voyez évidemment 11 millions de personnes voter pour le Front National, on se dit que le combat n'est pas près d'être terminé.
Des projets ?
Alors les projets, écrire un livre, une tournée musicale, puisque je suis un petit peu chanteur aussi. Donc j'ai une année 2025 assez chargée, et quand on atteint un certain âge, on est content d'être occupé.
Eh bien merci beaucoup d'avoir consacré quelques minutes. Alors dans mes rencontres, j'ai croisé là, devant le château, Pierre Askéry, maire de Moissartou, et donc on ne peut pas éviter de lui demander son avis sur le festival, 37 ans. Mais bon, vous avez vécu les 37 ans, vous.
À peu près, ouais, effectivement. J'ai fait partie des premiers visiteurs, des premiers bénévoles peut-être même, du festival. Et puis ce festival a bien évolué, a bien grandi, il s'est développé en gardant toujours la même orientation autour de l'humanisme et de l'écologie. Il est désormais bien installé dans le paysage national. C'est important d'avoir ce type d'événement sur la commune. Ouais.
Donc c'est un événement qui va perdurer encore 37 ans ?
C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Après, ça ne se décrète pas ce genre de choses. C'est des événements qui sont portés par des gens, qui ne sont pas éternels malheureusement. Et donc c'est la volonté d'un certain nombre de personnes, Madame Gourdon évidemment en premier lieu, mais elle est entourée d'une équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible. Donc il ne suffit pas de vouloir un festival pour que le festival existe. Il faut qu'il soit aussi accompagné par des personnes qui s'investissent corps et âme, je dirais, pour que ça fonctionne bien.
Oui, mais enfin, la municipalité, les élus, le maire a quand même un poids important pour que ça perdure.
Complètement, mais là aussi, c'est une situation qui est précaire. Hein. On est quand même soumis...
Oui, c'est un CDD.
Exactement, on est soumis...
CDD de 6 ans, comme je dis.
Exactement. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui peut disparaître demain. Donc c'est lié à, évidemment à la volonté politique de l'équipe municipale, tant qu'elle est en place. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Le choix, l'orientation, bon, c'est votre père, on sait qu'il avait trouvé, vraiment, initié cette orientation écologique, sociale. Moi, je dis, c'est la fraternité aussi, voilà. Et c'est vrai que cette orientation, on ne la retrouve pas dans beaucoup. Il y a des festivals de livres partout, mais on ne retrouve pas cette orientation, cette volonté de d'échanger, tout ça, partout.
Alors moi je connais bien le festival de Montsartou, je connais pas les autres.
D'accord.
Je ne porterai pas de jugement sur les autres, mais toujours est-il que nous, effectivement, on a voulu lui donner cette coloration-là, qui s'est construite au fil des temps, qui est vraiment toujours très en prise avec l'actualité. Mais c'est une façon aussi de se singulariser, faire un festival du livre sans un thème bien particulier, bien identifié, à mon sens, c'est voué à l'échec. Alors que là, il y avait nécessairement une orientation forte, quoi, une connotation forte. Et c'est aussi ce qui fait son succès.
Eh bien, à l'année prochaine.
J'espère bien. Avec grand plaisir, bien sûr.
Merci beaucoup, à l'année prochaine. Alors, je remercie tous les intervenants qui ont accepté de me répondre, de passer du temps avec moi, parce que au Festival de Montsartou, c'est dense et qu'ils sont très, très, très demandés. Donc, je remercie tous les auteurs, je remercie les auditeurs et je vous donne rendez-vous l'année prochaine au Festival de Montsartou en vous proposant d'autres rencontres.